Ciné Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Pau et vous écoutez Ciné Club Actu. Nous sommes Carla,
Camille,
Maxime.
Et nous allons vous présenter les 5 sorties cinéma et séries du mois d'avril. Et ensuite, nous allons évoquer les actus autour des projets les plus attendus. Cette émission est un peu spéciale parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'invité, puisque en fait, on a décidé de présenter notre film préféré.
Mais oui, c'est triste. Mais d'un côté, est-ce que c'est pas encore mieux nos goûts personnels?
Ben oui, c'est ça.
Voilà. Alors, on va commencer.
Décision qui s'est faite il y a une heure parce que problème d'invité en fait.
Oui, il y en a eu un gros problème d'invité. Bon, voilà. Bref.
Ça arrive des fois.
Ouais. Alors, on va parler de nos films préférés. Camille, tu commences.
Camille, vas-y.
Alors, moi, je voulais vous parler. Je pense que. J'ai pas vraiment de films préférés, mais je pense que s'il y en a un que je devais choisir, ce serait Les 4 filles du Dr. March. La version de 2019. Et alors, donc ça raconte l'histoire de 4 sœurs donc, qui viennent d'une famille qui était riche, mais qui maintenant l'est beaucoup moins aux États-Unis, parce que leur père il est parti faire la guerre de sécession. Et ils ont perdu toute la fortune en aidant les soldats, tout le monde. Et donc, du coup, voilà, c'est l'histoire de 4 sœurs. L'aînée qui s'appelle Meg et qui, bah, du coup, c'est elle qui a le plus connu ce moment où ils étaient riches. Donc, elle est un petit peu nostalgique de ça et ça lui manque un petit peu les habitudes bourgeoises. Ensuite, il y a la deuxième, c'est Jo, qui est très indépendante, qui aime beaucoup la liberté, etc., qui voudra aller se battre, d'ailleurs. Sauf qu'on lui dit, mais non, t'es une fille. Et la troisième, c'est Bess, qui est une fille très timide, mais qui aide beaucoup les autres, qui est toujours là pour ses sœurs. Et la dernière, c'est Amy, qui est ben, la petite dernière, quoi, qui aime les petites sœurs, on va dire, qui est un petit peu princesse, etc. Mais géniale aussi. Et donc, ben, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est. Ben, quand on a des frères et sœurs, tout ce qui se passe, on comprend. On s'identifie un petit peu toujours.
Oui. C'est super quand on voit des films et qu'on a ce sentiment-là.
Oui. Ouais, ça, on a l'impression que ça nous représente un peu.
Et pour donner envie à nos auditeurs d'écouter, on peut dire que c'est réalisé par Greta Gerwig qui va réaliser Barbie.
On va en reparler.
Surtout, on va parler du casting de
qui est exceptionnel.
Des filles du Dr. March.
De toute façon, les 4 filles du Dr. March a été fait et refait puisque c'est un livre qui date du 19e. Ça a été fait et refait en film. Et t'as plein d'actrices qui sont devenues célèbres grâce à ça. Notamment ben, dans Stranger Things, juste dans le casting de Stranger Things, t'en as deux qui sont devenues célèbres en jouant Jo March, dans deux versions différentes. Celle qui joue Robin,
oui.
Maya Hawke, et celle qui joue Joyce.
Winona
Winona Ryder, et elles ont toutes les deux joué une version de Jo et elles sont devenues très célèbres. Et donc, du coup, dans la version de 2019, il y a la reine, enfin, faut le dire, Emma Watson. Ensuite, il y a aussi Florence Pugh, dont on a parlé pas mal de fois,
oui.
Qui est très bien aussi. Il y a le Timothée Chalamet, quand même.
Mm-hmm. Et il y a Star Wars Ronan.
Ça se dit.
Ah oui, mais c'est trop dur.
Le bon prénom irlandais.
Prénom irlandais, comme on aime.
Malheureusement, beaucoup moins connu qu'Emma Watson et Florence Pugh.
Oui.
Mais qui est vraiment incroyable. Pour le coup, c'est dommage.
Timothée Chalamet et ça, j'ai oublié son nom de famille déjà. L'actrice qui joue Jo, du coup. Ça.
Quoi? Winona Ryder?
Non, celle que tu viens de dire.
Ronan. Savoir Ronan.
Oui, bon. On les prénoms irlandais.
Désolée.
Ouais,
c'est et Timothée Chalamet, ils avaient fait aussi un autre film déjà avec Greta Gerwig, Lady Bird,
mm-hmm. Oui.
Qui est sur Netflix.
Et qui est très bien aussi. Et c'est pour ça qu'on a hâte de voir Barbie, parce que Greta Gerwig est une grande réalisatrice du moment. Elle a réalisé deux super films.
On en reparle plus tard.
On va en reparler plus tard. Du coup, moi, mon film préféré, c'est Witch Hunt. Donc, c'est un thriller réalisé par Helen Callahan, qui est une réalisatrice et scénariste américaine. Donc, en fait, le film se passe pendant l'Amérique moderne, dans laquelle les sorcières sont réelles et la sorcellerie illégale. Donc on suit Claire qui doit affronter ses propres démons et préjugés lorsqu'elle se retrouve à aider deux jeunes sorcières ayant demandé l'asile à Mexico. En fait, elle va découvrir peu à peu que elle aussi elle est capable de faire certaines choses supernaturelles. Et voilà, je vous encourage vivement à voir ce film.
C'est sorti en quelle année ? C'est
2020 et je crois qu'il est sur Netflix. Enfin, je crois qu'il est sur Netflix, mais je suis pas sûre du tout. Mm-hmm. Mais
moi, pas du tout ce film pour le coup. Donc,
il est.
Au fil du docteur Marsh.
Ouais, il est assez méconnu. Mais quand je l'ai vu la première fois. J'ai beaucoup aimé cet univers un peu oppressant et fantastico-horrifique, en fait. Donc, voilà. Je vous encourage à le regarder.
Moi, j'ai pas vraiment de film préféré, comme Camille. Mais moi, c'est plus un film qui m'a fait réaliser que le cinéma, c'était bien aussi. Je l'ai vu quand j'avais 5-6 ans. C'est un film très connu. C'est l'épisode 3 de Star Wars, La Revanche des Sith, donc celui où Anakin devient Darth Vader, tout ça, voilà. Et donc on connaît un peu tout, c'est réalisé par George Lucas, sorti en 2005, la prélogie, avec Ewan McGregor en Obi-Wan et Hayden Christensen en Anakin.
Oui.
C'est-à-dire que Star Wars, je pense que ça fait partie des premières sagas que j'ai vues avec Toy Story. Et c'est vraiment les premiers où je me suis dit, oh, bah, c'est pas mal le cinéma finalement. Et finalement, tout ce cheminement-là a abouti à ce qu'aujourd'hui je sois dans le podcast. Donc au final, merci.
Merci Star Wars. Hein.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça, voilà. C'est pas vraiment mon film préféré, mais c'est une histoire par rapport à moi. J'aime beaucoup ce film. Et puis je pense que c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de fois de ma vie, en fait. C'est-à-dire, je le regarde une fois par an parce que c'est la petite tradition. C'est-à-dire, ça ne devient.
C'est pas indémodable, en fait.
C'est indémodable.
Oui, c'est indémodable, justement.
Voilà. Ça ne perd rien chaque année, c'est un plaisir, toujours. Voilà.
Et du coup.
On a fini cette partie invité sans invité. Allez voir nos films préférés, qui sont du coup très bien.
Oui. Du coup, on passe aux sorties de ce mois-ci.
C'est toi qui commence ?
Non, c'était les trois mousquetaires en premier.
Alors, le nouveau. Je vais vous parler des Trois Mousquetaires qui a été réalisé par Martin Bourboulon et qui est sorti en salle le 5 avril. Donc, il s'agit du premier volet d'une duologie. Et donc, le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan nous plonge au XVIIe siècle. Alors que la France elle est divisée par une guerre de religion qui oppose les protestants qui sont en train de faire un siège à La Rochelle et qui sont soutenus par les Anglais. Et les catholiques qui sont dirigés par les nobles et le cardinal de Richelieu, qui lui souhaite prendre le pouvoir. Un jeune Gascon, d'Artagnan, souhaite faire partie de l'armée de mousquetaires du roi, qui sont trois déjà, Porthos et Aramis. Donc ce film, c'est l'une des nombreuses adaptations du roman d'Alexandre Dumas, qui a été publié depuis en 1844. Et alors moi je suis allée le voir et honnêtement c'est vraiment bien fait, c'est prenant et ça nous plonge dans ces histoires de complot et de chevalerie. C'est très clairement un film à d'avoir pour ceux qui aiment l'histoire surtout. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, la deuxième partie du film sortira le 13 décembre.
De cette année, oui.
Oui.
Qui s'appellera Milady du coup.
Milady.
Parce que le premier c'est D'Artagnan, le deuxième c'est Milady. Oui. Parce que c'est un peu l'univers. Interconnectés français qui sont en train de faire, ils vont faire deux films du coup. Mm-hmm. Il y a déjà des séries sur Disney Plus en préparation. Mm. Et voilà.
Ah, il va y avoir des séries, j'ai pas trouvé ça.
Je crois qu'il y a une série sur un chevalier noir, je ne sais pas s'il est dans les films ou dans le film ou pas, mais qui sera connecté à ça. Et il y a une autre série, je crois qu'elle est sur Milady, mais je suis pas certain, en fait, j'ai oublié, je vais pas être honnête. Et voilà ce qu'ils essaient de construire un petit peu pour amener les gens à voir du cinéma français. Bon, pourquoi pas.
Bah pourquoi pas, hein.
Moi,
c'est toujours intéressant.
Je suis désolé, j'ai vu la banane, ça m'a un peu refroidi pour être honnête. Mais j'irai le voir au bout d'un moment. Je prendrai mon
courage. J'ai pas vu la bande-annonce, j'ai vu pas mal de gens qui disaient qu'ils étaient allés voir le film et qui pensaient qu'ils allaient pas aimer après avoir vu la bande-annonce et qui au final ont bien aimé.
Ah, oui.
Je pense que la bande-annonce n'a pas dû mettre le film en valeur.
Ah oui. La banane, c'est tout marron. C'est,
oui, ça donne pas très envie.
Mais c'est vrai qu'il y a un sacré casting pour le coup. Et bon, pour soutenir le cinéma français, même si c'est pas ces films-là qui ont besoin de soutien.
Oui.
Mais quand même un petit peu.
On passe à une sortie assez attendue ce mois-ci par les fans de jeux vidéo. C'est Super Mario Bros. Le film. Donc adapté du célèbre jeu du même nom. Jeu créé par Shigeru Miyamoto et qui fait partie de la licence Nintendo du coup. Donc le film a été réalisé par Aaron Horvath, connu pour faire pas mal de films d'animation comme les Teen Titans Go. Le film est sorti ce 6 avril. Il raconte l'histoire du fameux plombier Mario et de son frère Luigi qui, alors qu'ils essayent de réparer une canalisation, sont amenés dans un autre univers et ils sont malheureusement séparés. Donc Mario est déterminé à retrouver son frère et pour cela, il peut compter sur l'aide de Toad, habitant du royaume Champignon, et les conseils avisés de la princesse Peach en matière de combat. Apparemment, elle est très forte. Dans les voix originales, on peut retrouver Chris Pratt qui fait Mario, Anya Taylor-Joy qui fait Peach et Jack Black qui fait Bowser.
Ouais. Chris Pratt qui s'était fait démolir sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai.
Parce que, disons qu'il doublait Mario avec disons, sa voix naturelle, il faisait pas d'effort. Donc,
oui.
Ce qui paraît dans le film, c'est mieux. Mais moi, je l'ai vu en VF. Donc. Vous l'avez vu?
Non, j'ai vu la bande-annonce.
Moi, je l'ai vu. C'est vraiment un super film, pour le coup. Et je pense... c'est pas bête, mais ça peut être, c'est bien pour les enfants et les adultes. C'est-à-dire, c'est exactement le film Mario, c'est exactement à ce qu'on s'attend d'un film Mario en fait.
Bah, tout le monde connaît l'univers.
Par contre, l'animation est vraiment superbe.
L'animation est super jolie.
Et vraiment, c'est un plaisir à regarder. Il y a des bonnes blagues, c'est sympa.
Puis pour une fois que Peach a un rôle
important.
Ouais, parce que d'habitude elle est capturée, on veut juste la sauver quoi, dans le jeu.
Oui.
Non, mais je trouve que justement c'est bien d'avoir fait ça, changer un peu les codes du jeu en quelque sorte.
C'est ça. Et surtout que ça peut ouvrir sur plein de films.
Mais c'est ça.
Mario, il y a un univers gigantesque.
Ça a été décliné dans des tonnes de jeux.
Déjà,
il y a un Mario Kart à chaque console qui sort.
Ouais. C'est vrai. Mais c'est en même temps, vu comment ça se vend, forcément.
Mais parce qu'ils sont bien.
Non mais imaginez un film sur Yoshi,
trop
sur
bien.
Wario, l'homme en
T'imagines, on aurait tellement de possibilités niveau film, tellement d'univers à développer.
Je fais le prochain film.
Du coup, c'est Donjons & Dragons. Et donc, du coup, ça a été. Alors, Donjons & Dragons est sorti le 12 avril. Le nom complet c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Il a été fait par Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Et c'est adapté du fameux jeu de rôle du même nom, qui a toujours autant de succès depuis les années 70. Donc le film, il se raconte l'histoire d'un voleur beau gosse et d'une bande d'aventuriers improbables qui entreprennent une casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. Donc, Donjons & Dragons, l'honneur des voleurs, transpose sur le grand écran un univers riche du légendaire jeu de rôle. Et au casting, nous retrouvons Chris Pine, René John Page, qui a joué le duc dans la première saison des Chroniques de Bridgerton, Sophia Lillis, qui a joué Sid dans la série I'm Not Okay With This, et Daisy Head, qui joue Jenya dans Shadow and Bones. J'ai juste vu la bande-annonce, mais franchement, ça a l'air très sympa. Les effets spéciaux, ils ont l'air vraiment bien faits. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir.
Surtout si vous êtes fan du jeu de rôle.
C'est ça.
Oui. Si vous y avez déjà joué, vous...
Non.
Non, mais...
Je connais le nom.
Ouais, pareil.
Je pense que des jeux de rôle, il n'y en a pas beaucoup de connus.
Ah, mais Donjons et Dragons, c'est quand même un grand jeu de rôle connu.
Oui, mais imaginez... S'il est connu, c'est vraiment que ça doit être un truc de qualité, je suppose.
Depuis les années 70, t'as toujours autant de gens qui jouent, donc ça fait quand même 60 ans, du coup, presque.
Ouais.
Oui.
Le prochain film, c'est un film japonais d'animation intitulé Suzume, ça s'écrit, réalisé par Makoto Shinkai. On connaît tous l'animation japonaise, du coup, reconnue dans le monde entier. Que ce soit les films du studio Ghibli ou les animés, Et justement, la sphère cinéphile croit avoir trouvé le prochain grand génie de l'animation japonaise, Makoto Shinkai. Donc, il travaille dans l'animation depuis le début des années 2000 et s'est rendu célèbre en 2016 avec Your Name, qui avait reçu un grand succès à l'époque. Et donc, cette année, il revient avec son nouveau film, Suzume. Donc, le synopsis, c'est « Dans une petite ville de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée au milieu des ruines. Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes qu'elle renferme. L'homme est formel, toute porte ouverte doit être fermée. Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer. » Donc le film a reçu de très bonnes critiques, que ce soit dans la presse ou chez les spectateurs. Ça a connu un beau succès aussi, près de 300 000 entrées, ce qui est quand même énorme pour, en France pour un film comme ça. Et surtout, c'est le film, en deux semaines, qui a accumulé le plus d'argent venant de Makoto Shinkai, en fait, avec le box-office et tout ça. Il n'avait jamais eu un succès comme ça.
Ouais.
Et donc ça sort le 12 avril en salle en France. Voilà, voilà.
C'est sorti du coup, puisque...
Oui, c'est sorti.
Oui.
Du coup... Petite sortie horreur de ce mois-ci, Evil Dead Rise. Donc au cinéma, depuis le 19 avril, le film a été réalisé par Lee Cronin, réalisateur irlandais, qui a d'abord été connu grâce à son court-métrage Ghost Train. Donc ce film est une suite de la franchise Evil Dead. Donc c'est une série de films d'horreur créés par Sam Raimi. Donc, dans cet opus, Bess va rendre visite à sa sœur Ellie à Los Angeles, où elle élève seule ses trois enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Attention, ce film est gore, à tel point qu'il est interdit aux moins de 16 ans, donc âme sensible, s'abstenir.
Je connais pas du tout la franchise Evil Dead. Pourtant, elle est assez connue dans le monde de l'horreur et tout ça.
Ouais.
Bon, ça a eu de bonnes critiques, je crois.
Oui, il a eu d'assez bonnes critiques, oui.
Donc bon, allez le voir si vous...
Mais il y en a certains qui disent qu'ils sont un peu déçus parce que c'est pas... ça reprend pas trop l'univers des premiers films, donc à voir.
Ouais. Et la dernière sortie marquante du mois, c'est le film Bo is Afraid. Le nouveau film de Ari Aster, jeune réalisateur d'horreur de 36 ans, qui revient pour la première fois depuis Midsommar en 2019, qui est un superbe film d'horreur avec Florence Pugh, qui avait reçu de très bonnes critiques. Allez le voir, bien sûr. Donc, le synopsis, c'est « Bo Wasserman, un homme paranoïaque et perturbé, se lance dans une épopée pleine d'événements surnaturels pour retrouver sa mère. Lors de l'Odyssée, l'univers semble se liguer contre lui. C'est ainsi que la vie de Bo est remise en question grâce à des années de souvenirs qui émergent devant ses yeux. Donc Bo, le rôle principal du film, est incarné par Joaquin Phoenix. Le film est produit par le studio de films d'auteur américain A24, qui avait fait Lady Bird, justement. Et c'est le film le plus cher jamais produit dans ce studio, avec un budget de 35 millions de dollars. Alors les critiques sont extrêmement divisées sur ce film de 2h59, mais ça sera à coup sûr une grande proposition de cinéma d'un futur grand réalisateur. Ça sort le 26 avril. Et ça me rappelle beaucoup Babylone de Damien Chazelle au début de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé vite fait.
Oui.
Qui, moi, je trouve est un film, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année encore aujourd'hui. Qui avait, aux États-Unis, qui avait été démoli par la critique. Et puis en Europe, on avait été un peu plus accueillant.
Un c'était peu plus clément.
Aussi, voilà. Et là aussi, c'était un film de 3 heures. Là aussi, c'était un gros film d'auteur.
Oui.
Donc pour soutenir le cinéma d'auteur, et surtout parce que ça a l'air d'être un super film, il faut aller le voir le 26 avril. Donc, c'est déjà sorti aussi.
Du coup, il est sorti hier.
Oui.
Après, si c'est comme Midsommar,
j'ai avoir du mal. Pareil, il y a des éléments d'horreur, mais c'est un peu moins que Midsommar. Parce que Midsommar,
ouais,
c'est vraiment traumatisant pour le coup.
Oui, j'ai jamais pu le finir.
Moi, je l'ai fini. En plus, vous savez, c'est un film d'horreur en plein jour, donc ça tranche avec tout ce qu'on voit d'habitude.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait peur? C'est l'ambiance, c'est... elle est trop...
Moi, ça m'a pas forcément fait peur.
Faudrait
ça
que
m'a
je
juste
le regarde.
Mis mal.
Oui, c'est vrai.
Ça met mal.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est oppressant.
C'est très bizarre, oui.
Faudrait que je le regarde.
D'ailleurs, le premier film d'Ari Aster qu'il avait fait l'année avant Midsommar, qui s'appelle Hérédité, il y a moins d'acteurs connus dedans, mais c'est aussi un super film d'horreur. Mm. Hein. Comme Midsommar, ça met trop mal. Oui. Hein, c'est...
Midsommar, en fait, c'est un groupe. C'est des doctors. Enfin, il y a un mec qui veut partir en Suède.
Ouais.
qui part pour faire sa thèse de doctorat. Et alors, il se retrouve dans une petite communauté. Enfin, c'est même pas un village. C'est une petite communauté pour les fêtes de milieu d'été, de Midsommar, du coup. Et il se passe des choses très, très bizarres. Mais alors, vraiment. Des sacrifices humains, ce genre de choses.
Pour moi, jusque-là, c'est peut-être la première prestation de Florence Pugh de tout ce carré.
Ah, ça, c'est clair.
Je pense.
Par contre, oui.
C'est un de ses plus grands rôles. Donc, clairement, ce film gagne à être connu.
C'est ça.
Ouais, parce que c'est vrai que même dans les filles du docteur March, bah quelque part elle était un peu dans l'ombre quand même.
Mais on la
voit
un peu moins que.
Elle était un peu dans l'ombre d'Emma Watson, quoi.
Et Emma Watson.
Oui, aussi. Emma Watson, oui. On passe aux actus du mois.
Tout à fait. Et on va commencer avec une très longue actualité. Puisque du 16 au 27 mai va se dérouler le 76e Festival de Cannes et tous les détails sur ce festival, donc les films présentés là-bas, ont été dévoilés, donc je vais vous parler de certains films sélectionnés, pas tous, parce qu'il y en a une 150aine par
ouais,
là.
Ouais, ça prendrait des heures.
Donc je vais vous en citer quelques-uns. Donc le festival s'ouvrira le 16 mai au soir par une projection de Jeanne Dubarry, un film français de Mai Wen qui incarnera aussi le rôle principal de Madame Dubarry, qui pendant 1h55 de film essaiera de courtiser le roi Louis XV à Versailles, incarné par Johnny Depp, et le film sort le même jour, le 16 mai, en salle à travers toute la France. Voilà, donc c'est un film qui fait un peu fureur. Déjà pour Johnny Depp, mais surtout parce que la réalisatrice, Mai Wen, a été accusée d'avoir craché sur un journaliste.
Ah bah génial.
Donc ça a fait du buzz, voilà. En compétition, donc, on retrouve Wes Anderson, donc, qui a réalisé Grand Budapest Hotel et French Dispatch récemment, qui reviendra en salle le 21 juin avec son Asteroid City, avec au casting, attention, il y en a beaucoup, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Maya Hawke et Steve Carell et beaucoup d'autres que j'ai pas cités parce qu'il y en a énormément.
Un bon casting.
Et le synopsis donne trop envie. D'ailleurs, la première bande-annonce est sortie, il faut que vous alliez la voir parce que vraiment, ça donne trop envie. Donc le synopsis.
Le casting, déjà, il donne envie.
Oui, déjà le casting.
C'est curieux, vraiment. Le synopsis. En 1955, des étudiants et des parents de tout le pays se réunissent pour des compétitions scientifiques, du repos, des loisirs, des comédies, des drames et des histoires d'amour à l'occasion d'une convention junior Stargazer qui se tient dans une ville fictive du désert américain. Et donc, en fait, c'est le nom du film, du coup, Asteroid City, parce qu'il y a un astéroïde qui est tombé dans une ville. En compétition, on retrouve un nombre record de réalisatrices. Justine Trier pour Anatomie d'une chute. Alice Rohrwacher, nommée aux Oscars pour un court-métrage cette année, qui est une jeune réalisatrice italienne qui fait vraiment des super films. Donc son prochain film, ce sera La Chimera, qui sort en décembre en France. Il y a aussi Club Zero de Jessica Hausner. Les filles de Olfa, qui est un documentaire tunisien de Kauter Benhania. Ouais. L'été dernier de Catherine Breillat qui fait son retour après 10 ans sans film et enfin Banel et Adama de Ramata Toulay Si. On a aussi la légende du cinéma italien Marco Bellocchio qui présentera Rapito en salle en novembre. Quand je dis légende, j'abuse pas parce qu'il fait des films depuis 1965 pour le coup. Et on retrouvera aussi Ken Loach qui est un réalisateur britannique 86 ans qui présentera The Old Oak qui serait son dernier film. Lui aussi il fait des films depuis les années 60 je crois. C'est des films sociaux britanniques sur des gens qui se font arnaquer par leur travail, en gros. Il y aura Todd Haynes, qui est réalisateur de I'm Not There et Dark Waters, deux excellents films que je vous incite à aller voir, qui présentera May December avec Julianne Moore et Natalie Portman. Hors compétition, on retrouvera Martin Scorsese, qui viendra présenter son nouveau film Killers of the Flower Moon en salle le 18 octobre. Donc c'est un thriller de 3h26 avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Ça me donne très très envie, ça a l'air vraiment génial.
Ouais.
On aura aussi le dernier Indiana Jones, intitulé Le Cadran de la Destinée, qui est en salle le 28 juin. On aura les deux premiers épisodes de la série The Weeknd, The Idol, qui seront présentés, mais ça on en reparlera plus tard. Et enfin, le prochain film Pixar, Elemental, en salle le 21 juin, sera présenté en clôture du festival. Dans la section quinzaine des cinéastes, on retrouvera le nouveau film de Michel Gondry, qui a réalisé notamment Soyez sympa, Rembobiné, que parfois les gens ont vu, puisqu'il a été montré à plein d'écoles primaires ou de collèges, je crois. En tout cas, dans mon département, le Gers, je sais pas ailleurs. Et c'est vraiment un super réalisateur français, mais qui était un peu en déprime depuis 7 ans, et là, qui revient avec depuis 8 ans, qui revient avec le livre des solutions avec Pierre Ninet. Voilà, voilà.
Donc, petite actu d'ici. Il est à croire que le prochain film de James Gunn, Superman Legacy, commencera à être tourné en janvier. Donc, pour l'instant, on sait que James Gunn a déjà débuté l'écriture du scénario. Mais on ne sait rien quant au casting du film.
C'est vrai, parce qu'on aura un nouveau Superman en 2024.
Plus d'Henri Cavill. Ouais.
Oui, pour un nouvel univers DC, comme on avait parlé la fois dernière.
Oui.
Bon, on verra bien ce que ça donne. On a le film de Ethan Coen, Drive Away Dolls, qui sortira le 22 septembre. Alors, qui est Ethan Coen? Il fait partie des frères Coen, Ethan et Joel de leur prénom, qui font partie des plus grands réalisateurs de Hollywood depuis les années 90, qui ont réalisé pour les films les plus connus The Big Lebowski, Fargo et No Country for Old Men. Mais depuis 2018, les frères se sont séparés temporairement pour réaliser des films chacun de leur côté. Donc là, ça va être très drôle le contraste qu'il y a entre les deux, puisque Joel lui a sorti un film fin 2021 qui est une réadaptation de la pièce Macbeth de Shakespeare, qui est un film en noir et blanc surréaliste, qui est sur Apple TV+. Et Ethan lui va sortir Drive Away Dolls le 22 septembre en salle. Le film sera une comédie suivant Jamie, incarné par Geraldine Viswanathan, un esprit libre qui déplore une nouvelle rupture avec sa petite amie, et son amie Marianne, incarnée par Margaret Qualley, qui a désespérément besoin de se détendre. À la recherche d'un nouveau départ, les deux se lancent dans un road trip improvisé entre Philadelphie et Tallahassee en Floride, mais les choses dérapent rapidement lorsqu'elles croisent en chemin divers personnages, dont des criminels pas très doués et un sénateur diabolique. Et on compte également Pedro Pascal et Matt Damon au casting. Alors c'est un film dont un peu personne n'a entendu parler, malheureusement, mais le synopsis me donne trop envie. Ça a l'air trop bien comme film. J'adore,
ouais, le synopsis,
j'adore les road movies où juste les gens ils prennent la voiture et puis voilà, on suit ce qu'ils font.
C'est ça.
Là, ça a l'air vraiment exceptionnel.
On a parlé de The Idol un peu plus tôt, donc série réalisée par The Weeknd qui sortira sur HBO en juin prochain. Donc la série mettra en scène Jocelyn, jouée par Lily Rose Depp, déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique suite à une dépression nerveuse. Donc Tedros, joué par The Weeknd, propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle. Donc est-ce que cette nouvelle romance l'entraînera au sommet de son art, ou est-ce que ça la fera basculer dans les tréfonds de son âme? Pour avoir la réponse, rendez-vous le 4 juin.
Ouais. Et pour le coup, moi j'adore The Weeknd. Et pour le coup, ça me donne absolument pas envie. Cette série, ça a l'air toxique. Là. C'est la bande-annonce, j'ai regardé. Ça,
ouais, la bande-annonce, c'est pas...
Par contre, c'est une excuse pour The Weeknd pour sortir de la musique. Donc moi, ça m'emplit de joie d'écouter de la musique de The Weeknd. La série, sinon, encore sur la musique.
Ouais, à part...
Ouais, c'était réalisé par le réalisateur d'Euphoria. Bah, déjà, on en avait parlé la dernière fois. Il y a eu pas mal d'histoires.
Une histoire assez sombre, oui. Et ça me donne pas trop envie de regarder la série.
Non.
Je suis pas un grand fan d'Euphoria.
Non, et puis même la bande-annonce. Enfin, voilà.
Voilà, voilà.
Vous irez voir.
Faites votre propre avis à partir du 4 juillet. Le dernier film de Clint Eastwood, acteur et réalisateur de légende, 93 ans cet été, serait en préparation à la Warner Bros. Donc après une carrière de 70 ans, puisqu'il a commencé à jouer en 1954, il prépare donc son 39e film en tant que réalisateur. Le film s'intitulerait Juré numéro 2 et suivrait un juré amené à suivre une affaire de meurtre, au tribunal donc, et qui réalise peu à peu qu'il a peut-être lui-même causé la mort de la victime. Il sera interprété par Nicolas Hoult, alors qu'on a vu dans les X-Men et qu'on a vu dans le biopic de Tolkien aussi il y a 3 ans. 4 ans maintenant. Et l'homme devra alors choisir, manipuler les autres jurés ou se rendre, et Toni Collette jouera le rôle de la procureure. Un tournage début juin, donc on peut supposer une sortie en 2024.
On espère.
Ouais, c'est triste un peu. Clint Eastwood, 93 ans, c'est une grande du cinéma qui va bientôt quitter la scène. Et on a aussi 3 films Star Wars annoncés. Le premier sera un film réalisé par James Mangold, qui a fait Logan et le dernier Indiana Jones, qui sera une épopée biblique sur le premier Jedi, je crois, des milliers d'années avant l'épisode 1.
Ouais.
Donc ça va être, ça a l'air vraiment d'être génial. Il y aura aussi un film qui se passera 15 ans après.
15 ans après Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui sera réalisé par Charmin Obaid-Chinoy, qui est une femme.
Ouais. travaillé sur Miss Marvel,
oui,
la série, et qui a fait des documentaires au réalisage.
Et il y a aussi Dave Filoni qui réalisera aussi un de ces trois films, mais par contre, je sais pas du tout de quoi ça parlera.
Ce sera la fin de l'univers de Mandalorian,
ah, oui,
et de,
voilà,
Ahsoka et de toutes les séries. En gros, ils feront un gros film. Et, voilà. Et on sait pas trop quand ça sortira, probablement dans des années.
Comme
ça prend du temps à faire un film.
Bah... une raison de plus pour suivre ce podcast et être au courant des dernières actualités.
C'est ça. le biopic de Bob Dylan avec Timothée Chalamet commencera son tournage en août. Donc le film A Complete Unknown est réalisé du coup par James Mangold.
Encore une fois, lui.
C'est ça. Et à part Timothée Chalamet, on sait que Benedict Cumberbatch jouera également dans ce film.
Et que Timothée Chalamet chantera lui-même.
Oui, c'est vrai, il va chanter lui-même les...
Vrai.
Ouais.
C'est vrai. Un gros film en vue avec Timothée Chalamet.
C'est
j'ai hâte
ça.
De voir ça, personnellement.
Ouais,
ça,
franchement.
Imaginez Timothée Chalamet et Bob Dylan qui chantent avec la guitare. Ça a l'air bien.
Ça promet.
Et alors, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, ce film, parce que c'est l'un des plus attendus probablement de cette année. On l'avait déjà mentionné au début de l'émission, d'ailleurs. Le 19 juillet, le film Barbie, produit par Greta Gerwig, va sortir au cinéma. Et donc, ce mois-ci, un nouveau trailer a été dévoilé. Il nous explique un petit peu plus l'intrigue de ce film, avec un casting qui promet déjà d'être exceptionnel. Donc, dans le rôle de Barbie, on a Margot Robbie, qui a joué Harley Quinn. Ensuite, on a Emma McKay qui va jouer une Barbie physicienne, lauréate d'un prix Nobel. Nicolas Coughlan, qui joue Penelope dans les chroniques des Bridgerton, sera une Barbie diplomate. Et dans le rôle du Ken principal, ce sera Ryan Gosling.
Et on aura aussi Shruti Gatwa, qui est le prochain docteur, le 15e docteur de Doctor Who. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Doctor Who.
Oui, c'est vrai.
Il faut que je vous aille le voir. Il y a le 60e anniversaire en novembre et Shruti Gatwa joue Ken dans Barbie aussi.
Oui, et il y en a trois de Sex Education et du coup il y a...
Il y a Emma McKay, oui.
Et à celui qui joue... ça fait longtemps que je regarde. Mais du coup, le mec là, de Eric dans la série.
Adam ?
Oui, il va y avoir son acteur aussi qui va jouer un des Ken.
Ah ouais ?
Non, pas l'un des Ken, mais il va jouer un rôle aussi.
Et Dua Lipa jouera une Barbie et elle sortira plusieurs nouvelles chansons pour le film.
Oui, c'est
donc
vrai,
aussi,
oui.
Tant mieux, encore une fois.
Plein de trucs grâce à ce nouveau film Barbie. Enfin, avec ce film Barbie plutôt,
donc ça promet
n'a jamais eu.
Exceptionnel. Et puis on peut voir dans le trailer, c'est un univers très rose, très girly, mais visiblement ce sont les Barbies qui dirigent. Donc des Barbies qui ont les rôles les plus importants dans la société. Donc comme vous pouvez voir, il y en a des diplomates, des physiciennes, mais la présidente aussi. Et alors que les Ken semblent visiblement jouer un second rôle, et ce qui s'est confirmé par les posters, où on voit la tête de l'acteur avec écrit son nom et le rôle qu'il va jouer. Et alors la Barbie est physicienne, diplomate, présidente, etc. Tandis que pour les Ken, il est juste Ken. Mais il y a aussi d'autres personnages comme une narratrice et des personnages qui sont juste des humains.
Ouais.
Du coup, voilà, c'est intriguant.
Ça a l'air génial, ce film.
Oui.
Vraiment.
Ah non, mais le 19,
tout
là.
Ça a
moi,
l'air incroyable, hein,
le 19, ouais. Dans la salle de cinéma.
Non, mais ça va ramener du monde, ça me fait plaisir au cinéma, parce que il a l'air génial.
Ah oui,
en plus, en fait, juste Greta Gerwig, je sais que ça va être un film de qualité, qu'on va parler au début.
Bah oui, évidemment.
Juste ça, ça me donne envie, mais là, tout le. Margot Robbie, Ryan Gosling, l'histoire qui a l'air trop bien, ça a l'air trop beau le film.
Moi je suis dégoûtée de ne pas avoir pu aller voir les 4 filles du Dr. March au cinéma parce qu'il ne passait pas le film dans ma ville.
Ah.
Ça s'appelle Vivre en campagne. Chris Melandandri, patron des studios Illumination, a annoncé que le film Shrek 5 est bel et bien en préparation. Mais pour l'instant, les studios travaillent sur la reformation du casting original, donc avec Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz et Antonio Banderas. On attend ça avec impatience.
Mais d'ailleurs, on peut spoiler la fin du Chapoté 2. C'était
non.
Eux qui revenaient au pays des...
Ouais, fort fort lointain.
Donc,
on espère une suite.
Atteindre à Shrek 5.
Oui. Des news aussi chez Apple TV+, donc disponible gratuitement pour les abonnés Canal+, le film Killer of the Flower Moon, dont on a parlé un peu plus tôt, avec Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio, Brendan Fraser ou encore Robert De Niro, sortira le 20 octobre du coup sur Apple TV, et aussi le film Napoléon réalisé par Ridley Scott avec Joaquin Phoenix qui lui sortira le 2 novembre.
Ouais, en salle, et donc en fait on en parle puisque ce sont des films produits par Apple TV+,
ouais.
Sauf qu'ils se sont rendus compte que s'ils les sortaient sur la plateforme, personne n'allait en parler, donc ils les sortent au cinéma en fait. Et donc oui, c'est disponible gratuitement pour tous les abonnés Canal+. C'est-à-dire que vous êtes abonné à n'importe quelle formule de Canal+, vous avez Apple TV+ gratuit. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Des séries dessus, là.
Oui.
Il y a Ted Lasso, on en avait parlé le mois dernier, enfin, vous regarderez sur la plateforme.
Lilo et Stitch, du coup.
Ouais, nous avons beaucoup de nouvelles pour le casting live action du film Lilo et Stitch. Donc, ce film va être réalisé par Dean Fleischer-Kamp, qui a réalisé Marcel le coquillage avec ses chaussures. Et d'après un scénario écrit par Chris Kekanyokalani Bright. Il y a un nom très long.
Ouais.
Les producteurs du film sont Dan Lin et Jonathan Erich, qui ont fait Aladdin et le Manoir hanté. Et donc le tournage est actuellement en train de se dérouler à Hawaï, sur l'archipel de Oahu. Et le film sortira exclusivement sur Disney+. Donc au casting, Lilo va être joué par Maya Keolaha. Nani va être joué par Sidney Ogudong. David va être joué par Caio Machado, et les rôles de Zach Galifianakis et Mimi Magnussen n'ont pas encore été communiqués. Excusez-moi, je n'arrive pas à bien prononcer les noms. Et voilà.
Mais vous aimez bien Lilo et Stitch?
Ouais, le dessin animé était cool.
Ça fait longtemps, j'avais bien aimé, mais ça fait très longtemps.
Ça fait des années, par contre, je ne l'ai pas vu. Hein.
Voilà.
Moi, comme j'ai vu aucun dessin animé quand j'étais petit, je l'ai rattrapé l'année dernière, c'est sympa. Mais est-ce que j'ai vraiment un intérêt à aller voir un film là-bas?
Bah, le live action, je sais pas.
Après, le seul intérêt que j'ai, c'est Dean Fleischer-Kamp qui a réalisé ça, qui a réalisé justement le petit film là, Marcel le coquillage avec ses chaussures,
oui.
Qui a été nominé à l'Oscar d'ailleurs, il y a un mois, là, on en parlait. Et qui est vraiment un super film d'animation, pas du tout connu, mais qui est littéralement donc Marcel un coquillage, Marcel un coquillage avec des chaussures qui vit sa vie. Et c'est vraiment génial ce film. Ouais.
Donc le prochain film Godzilla et Kong The New Empire sortira le 15 mars 2024. On n'a pas plus d'informations.
Et on n'en veut pas, c'est horrible. Le Monsterverse, comme ils l'appellent.
Oui, Godzilla, non, c'est il faut arrêter.
C'est nul. On est censé faire des recommandations de
films.
Ouais,
mais c'est...
N'allez pas voir ça. C'est pas bon.
Il faut arrêter de faire Godzilla versus Kong. Arrêtez, stop.
Ils ont fait deux Godzilla, les deux étaient nuls. Ils ont fait un Kong, il était nul. Ils ont fait Godzilla versus Kong, il était encore plus nul. Bon, c'est bon, on en a un peu plus.
Qui sait, peut-être que celui-là sera mieux.
Non, je n'ai aucun espoir. Je ne vois pas comment ça peut s'améliorer.
Ouais. Et alors, beaucoup d'adaptations ou de réadaptations de séries de livres en série font parler actuellement. Donc déjà, il y en a deux qui font pas mal débat, surtout, parce que c'est des reboots de deux sagas littéraires mythiques qui ont été adaptées en film, qui sont devenues cultes. Donc c'est Harry Potter et Twilight. Alors, pour Harry Potter, ça faisait un moment que des rumeurs circulaient concernant une série. Et HBO et la Warner viennent de confirmer que la série a effectivement été commandée et que ce serait une réadaptation. Dans la foulée, il a été annoncé qu'un reboot de Twilight était déjà en adaptation chez Lionsgate. Et alors, ça fait énormément parler, parce que beaucoup de gens, et notamment les fans de des films et des livres, trouvent que cela est inutile, sachant que les films ont été déjà bien faits.
Oui, et puis même, c'est terminé, quoi. Enfin,
oui,
ouais, et c'est pas comme si les films, c'était des années 50, c'était il y a...
20 ans, quoi.
C'était
ouais.
Il y a 12 ans, le dernier Harry Potter.
Ouais.
Oui.
Près de 12 ans déjà. Et donc, celui qui fait le plus parler, c'est Harry Potter. Parce que ça fait déjà un moment que l'autrice fait énormément parler en mal à cause de ses propos très polémiques par rapport aux personnes transgenres.
Ouais, ben, bonne chance pour trouver des acteurs
qui veulent travailler.
Parce qu'après, vous êtes mal vus par le milieu et tout. Bon, ben...
Oui. Ouais. Puis il y a beaucoup de fans qui appellent à tout simplement ne pas regarder puisque ouais, c'est boycott. Inutile et que ce serait simplement lui donner de l'argent.
Exactement.
Bien sûr.
Qui actuellement, elle le donne aux associations. Alors, je dois avouer que même.
Oui.
Oui, mais elle en donne quand même une partie aux associations. Donc, certaines personnes, voilà. Puis, même la version. Même moi, en tant que fan, je dois avouer que. Enfin, bon, la version avec Emma Watson, Rupert Grint et Daniel Radcliffe, ça reste quand même culte.
Bah oui.
Et ils auraient pu adapter un autre aspect, quoi, en fait, tout simplement.
Mais il y a tellement d'aspects.
Animaux fantastiques et ça oui. a raté.
Ouais, mais même après Harry Potter, tu vois, il y a plein d'aspects. Oui. Genre les enfants des trois personnages principaux, il y a les maraudeurs, il y a.
Mais les maraudeurs, je pense que c'est quelque chose que les fans attendraient.
Ben oui, on attend que ça.
Il y a une fanfiction
oui.
qui a été publiée en livre. Donc la personne est en train de se faire de l'argent sur Caroline, c'est très drôle. Qui a presque plus de succès maintenant que Harry Potter.
Mais le problème de cette série Harry Potter, c'est qu'on ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Parce que ça s'adresse aux fans d'Harry Potter, mais ils ont déjà vu les films, donc ils n'ont aucun intérêt dans une nouvelle série. Mmh. Et il n'y aura pas de nouveaux spectateurs, vu que s'ils veulent se mettre dans Harry Potter, ils vont regarder les films.
Mais oui, donc, il n'y a aucun intérêt à regarder la série.
Et donc la série, ce serait 7 saisons, du coup, sur quasi 10 ans, et sur les 7 films, les 7 romans, quoi. Mmh.
Ouais, donc ça sert à rien.
On va voir s'ils vont continuer après la première, parce qu'à mon avis...
à mon avis, ils vont être obligés de continuer, sinon c'est humiliant pour le studio, mais bon... perso, ça me donne pas du tout envie. Je regarderai peut-être des épisodes par curiosité pour voir. Moi, le seul cas où ça m'intéresserait, c'est vraiment s'il y a un auteur, on va dire, qui a sa propre vision et qui essaie de
rafraîchir un peu tout ça, quoi.
Ce sera pas ça, ils vont faire Poudlard comme dans les films, quasiment, et tout, voilà.
Bah oui.
Et Twilight, pour le coup, je n'ai jamais vu. Mais j'ai l'impression que c'est comme Harry Potter. Ou c'est juste le studio qui veut se faire de l'argent, puis voilà.
Oui, ça avait... trois jours plus tard, ils ont annoncé ça. Et pareil, les mêmes réactions, mais pourquoi faire ?
Ils ont vu que Harry Potter cherchait à se faire de l'argent, ils se sont dit, pourquoi pas nous ?
Oui,
parce qu'en fait, il y a plusieurs livres qui refont leur série après avoir eu un film, mais c'est parce que les films étaient nuls.
Voilà. Par exemple, Percy Jackson,
oui. À la croisée des mondes.
C'est ça, mais ça on peut
Shadowhunter.
Harry Potter et Twilight, c'est deux licences qui ont eu énormément de succès.
Bah oui, pourquoi faire une série ?
Les Harry Potter, j'ai lu et j'ai vu, ils adaptent pas mal les romans.
Ouais, franchement,
encore,
oui.
Ils adaptaient mal, je pourrais comprendre une série, mais même pas là.
Oui.
De toute façon, c'est juste une machine à cash en soi pour les studios.
Oui, ça, bah oui, oui.
C'est un peu triste parce que bon, il y a vrai. Comment dire c'est dommage de ne pas créer de nouvelles œuvres. Plutôt, l'univers d'Harry Potter, il est vaste. Oui.
C'est ça.
On peut faire tellement d'autres trucs.
Les origines de Poudlard, les maraudeurs.
Bon. Voilà.
Et même les quatre fondateurs. Ouais, les origines de Poudlard, oui. Les fondateurs.
Poudlard, il y a les autres maisons et tout.
Ouais, oui, bien sûr. Découvrir les autres maisons,
ouais.
C'est fait.
Voilà. Parce que on a découvert Ilvermorny qu'avec les animaux fantastiques, mais il y en a d'autres.
Oui, surtout les animaux fantastiques. On sont pas trop aimés dans la communauté Harry Potter, j'ai l'impression.
Ouais, ça dépend.
Moyennement, quoi, je trouve.
Le dernier n'a pas eu de succès, mais parce que les gens n'ont plus voulu aller le voir après ce qu'a dit Caroline.
Non, et puis même, c'était plus Johnny Depp, c'était...
Et par rapport à Johnny Depp aussi.
Ouais. Je crois que le troisième a fait plus d'argent que le deuxième.
Oui.
Alors qu'il est sorti au moment du Covid, le troisième.
Oui.
C'est inquiétant, quand même.
Et donc, du coup, deux autres actus aussi qui sont des adaptations de livres. Alors, la saison 2 de Heartstopper va arriver le 3 août, c'est tombé cette semaine. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, ça raconte une histoire d'amour, tout simplement, entre deux adolescents, Nick et Charlie. Et voilà, c'est mignon, c'est beau, il faut aller voir.
Sur Netflix, oui.
Oui, sur Netflix.
Sur Netflix, donc voilà. Et... dedans, il y a Jasmine Finney qui va jouer dans le...
Docteur Who.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut le mentionner à chaque émission.
Bien sûr, il faut le regarder. C'est génial.
On n'a pas mentionné l'Avatar cette année.
Ah oui, c'est vrai.
Mais, malheureusement, là, il n'y a plus d'actu.
Et alors, il y a une autre deuxième adaptation qui va sortir la semaine d'après. Et donc, ça ravit les fans des deux communautés. c'est l'adaptation de Red, White and Royal Blue. Donc, pour le livre français, c'est My Dear Fucking Plus, me demandez pas pourquoi.
Surtout que c'est un titre français en anglais.
Mais ouais, c'est ça.
Non, mais personne
n'a compris. Pourquoi changer le titre ?
Personne n'a compris. Et qui raconte l'histoire entre le prince d'Angleterre et le fils de la première présidente des États-Unis.
What ?
C'est très drôle.
Pourquoi pas ?
Ça va être très drôle. Et voilà, ça va être le 11 août, mais cette fois, c'est sur Amazon Prime. Donc, n'hésitez pas, il ne faudra pas hésiter à aller voir aussi. Ça risque d'être bien. Et voilà.
Eh bien, voilà,
c'est déjà la fin.
Ouais, c'est tout pour ce mois-ci. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se dit rendez-vous en mai.
En mai, oui.
Pour le prochain épisode.
Pour le dernier épisode.
Et le dernier de l'année. Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud et le site internet de Radio Campus Pau.
Et l'application.
Oui, il y a l'application maintenant, c'est vrai.
Téléchargez-la, bien sûr.
Restez connectés sur les réseaux sociaux de Radio Campus Pau pour tout savoir de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À dans un mois.
Au revoir.